Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du Grain. Ce soir, Karl Marx a 200 ans, l'âge de raison. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au capitalisme, c'est d'avoir des préjugés, qu'importe le flacon et son contenu, pourvu que ça se vende. Prenez Karl Marx, dont on célèbre demain, 5 mai 2018, le bicentenaire de la naissance. À Trèves, sa ville natale, on trouve moult objets dérivés à l'effigie de celui qui avait pourtant prédit l'effondrement du système capitaliste sous l'effet de ses contradictions internes. La correspondante en Allemagne du journal Libération racontait hier qu'on peut s'y procurer des canards de bain, des bières, des faux billets de banque, des moules à biscuits, des tapis de souris et même un rince-bouche parfumé à la menthe, tous à l'image de l'auteur du Capital. Alors, ironie de l'histoire, pour trouver un regain d'intérêt à l'égard de la production intellectuelle de Karl Marx, c'est dans le pays qu'il a peut-être le plus combattu qu'il faut aller, les États-Unis. Karl Marx y fait son comeback selon un article du Monde qui note qu'une partie de la jeunesse américaine redécouvre le philosophe et se l'approprie pour penser l'inégale répartition des richesses. 200 ans après sa naissance, Marx semble en tout cas débarrassé du procès post-mortem qui pouvait lui être fait, celui d'avoir engendré des régimes totalitaires. Alors, Karl Marx a 200 ans, est-ce l'âge de raison ? C'est le thème de notre discussion ce soir avec deux des membres du club, comme chaque vendredi. Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Le tour du monde des idées, c'est votre chronique tous les jours, enfin du lundi au vendredi, sur France Culture à 11h53. Vous signez par ailleurs des chroniques pour l'hebdomadaire Le Point. Et puis notre invité cette semaine, c'est Gérard Duménil. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, ancien directeur de recherche au CNRS, membre du comité de rédaction d'Actuel Marx. Et parmi vos publications, je citerai celle que vous avez produite en compagnie de Michael Lovy et Emmanuel Renaud. Lire Marx, c'était au PUF en 2014. Alors lire Marx, déjà je trouve ça intéressant comme titre, parce que d'habitude on aurait plutôt relire Marx. Vous savez, c'est un petit peu comme relire Proust. Là, ça part peut-être du principe déjà qu'on ne l'a peut-être pas lu. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous avez voulu dire, Gérard Duménil, c'est-à-dire qu'on en parle sans toujours l'avoir lu.
Non, pas du tout, parce que c'est simplement une collection au PUF. Hein, c'est le directeur des PUF, Michel Prigent, qui nous avait demandé de faire un livre, et ils ont une collection. Alors, on peut lire Freud, on peut lire Marx, voilà, et ça s'intitule pas « Relire ». Voilà.
Quand bien même, est-ce qu'on pourrait dire, aujourd'hui, même si ce n'était pas votre intention initiale, que Marx est beaucoup cité sans forcément avoir été lu? Je vais vous citer une phrase du philosophe Michel Henry qui disait ceci, « Le marxisme est l'ensemble des contresens qui ont été faits sur Marx ».
Oui, ben c'est pas tout à fait faux, mais il y est pour quelque chose, parce que justement l'œuvre de Marx est gigantesque, hein. Elle est très complexe, elle a évolué, elle a ses aspects philosophiques, ses aspects économiques, ses aspects sociologiques, on pourrait dire maintenant, hein. Donc on n'en sort jamais, on n'en sort jamais de Marx. Hein.
Ce que vous savez de Marx, Anastasia Colosimo et Brice Couturier, est-ce que c'est des connaissances que vous êtes allé puiser dans le texte même? Ou bien dans son exégèse ou dans ses commentaires, Anastasia Colosimo.
Non, dans le texte même, quand on fait de la philosophie, c'est, moi, j'ai pas du tout fait d'économie, j'ai fait de la philosophie, mais en philosophie, c'est quand même assez inévitable d'en passer par Marx à un moment. Moi, j'ai fait de la théologie politique sur la question de la religion, de la sécularisation. Ça reste quand même un auteur fondamental en philosophie politique. On l'étudie quand même beaucoup. Ensuite, c'est certain qu'il y a eu non seulement beaucoup de contresens, mais il y a aussi eu des lectures très différentes du marxisme. Vous disiez d'ailleurs, Hervé, au début, qu'il y a un renouveau de Marx aux États-Unis, mais c'est pas un renouveau. À l'université aux États-Unis, il y a toujours eu beaucoup de marxistes. L'université américaine est une université très à gauche. Il y a aujourd'hui aux États-Unis des universités qui se disent en sciences humaines entièrement et absolument marxistes, c'est-à-dire que toutes les matières sont enseignées d'un point de vue marxiste. Et la jeunesse américaine, là, on fête mai 68. La jeunesse américaine dans les années 68, c'est une jeunesse qui lit le Petit Livre Rouge, qui lit le Manifeste du Parti communiste. Donc, il y a quand même une tendance, même aux États-Unis, encore très forte parmi surtout les élites intellectuelles, d'une transmission d'une pensée marxiste.
Alors, on reviendra justement sur les raisons peut-être de cette tendance qui est une tendance de fond, nous dites-vous, Anastasia Colosimo, en tout cas qui dure dans l'histoire et qui n'est pas absolument récente. Vous, s'agissant de votre connaissance, disons, Brice Couturier, de l'œuvre de Karl Marx, c'est une connaissances, vous aussi, que vous êtes allé puiser dans les textes eux-mêmes. Vous qui vous intéressez alors aussi beaucoup à l'économie. Quand on s'intéresse à l'économie, il faut avoir lu Marx.
Non, ça je crois pas. Je suis d'accord avec Schumpeter et Raymond Aron pour dire qu'en tant qu'économiste, il est totalement dépassé. Mais en tant que sociologue, en tant qu'analyste de l'histoire ou que ce faisant, par exemple, il est absolument irremplaçable. Son œuvre sociologique est absolument et reste. C'est son économie qui tient pas la route. J'espère qu'on aura l'occasion de le redire. Il faut pas oublier qu'il y a encore très peu d'années, une trentaine d'années, 40% de l'humanité vivait dans des régimes qui se réclamaient du marxisme. Depuis la révolution de 49 en Chine jusqu'à la chute du régime communiste et de ses affidés en 89, 40% de l'humanité vivait dans des régimes marxistes. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'échec de ces différents régimes, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme de marxisme qu'ils ont voulu adopter, jette une ombre assez désastreuse sur l'économie marxiste et sur la politique marxiste.
Alors, vous n'êtes pas le seul, Brice Couturier, à dire que s'agissant de son analyse économique, c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé. Il y a un hors-série assez intéressant qui a été publié il n'y a pas très longtemps par Alternatives économiques sur Marx, l'incontournable. Et il y a notamment une interview de l'économiste libéral, c'est comme ça qu'il se revendique, donc il n'y a pas de raison de ne pas le dire, Jean-Marc Daniel, à qui on pose la question, est-ce qu'il faut enseigner Marx à ceux qui veulent devenir économistes? Il répond, on peut faire l'impasse sur Marx économiste, laissons-le aux philosophes et aux historiens. Gérard Duménil, vous qui êtes économiste, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord.
Je ne serais pas du tout d'accord. Et de toute façon, l'économie de Marx, c'est l'économie du capitalisme. Ça n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer dans les pays socialistes après. Marx n'est pas l'économiste des pays socialistes. Et Marx a été le théoricien du système capitaliste. C'est une théorie à la fois de l'histoire extraordinairement puissante et irremplacée jusqu'alors, mais c'est aussi une économie politique très très forte et qui continue à avoir sa valeur explicative. On le voit très bien avec ce qui s'est passé récemment, par exemple la crise de 2008, on le voit très bien avec bien d'autres analyses de Marx sur ce qu'on appelait dans le temps le cycle industriel, ou qu'on appelle maintenant le cycle conjoncturel, sur la théorie du changement technique où Marx est aller plus loin qu'aucun penseur peut-on dire. Donc en ce qui concerne la théorie du capitalisme, je ne serais pas du tout d'accord pour dire que Marx économiste est sans intérêt. Intéressant.
C'est vrai que Karl Marx a écrit sur des crises financières, celle du milieu du 19e siècle. En quoi ce qu'il a pu écrire et ce qu'il a pu analyser a pu être pertinent pour analyser celle de 2008?
Eh bien parce que, si vous voulez, par exemple, prenez le texte le plus connu, très simple, qui est le texte du Manifeste. Eh bien dans le Manifeste, Marx décrit les classes capitalistes comme des apprentis sorciers. Et je crois que c'est une description absolument excellente d'un certain type de crise, qui sont des crises comme justement la crise de 2008 ou comme la crise de 29. C'est-à-dire que constamment, les classes supérieures se lancent dans des innovations pour gagner plus, enfin très clairement, surtout dans la dernière crise et dans la crise de 29. Et puis, à partir d'un certain moment, eh bien, ils ne contrôlent plus l'effet de leur magie. C'est un thème qui est bien connu. Bon, mais ça va beaucoup plus loin que ça, évidemment. Mais quand Marx a écrit en 48 le Manifeste, il n'avait pas encore véritablement étudié pleinement l'économie politique. Il avait cette intuition, il avait cette vision du devenir du capitalisme. Bon. Ensuite, il a étudié l'économie politique. Mais il faut surtout dire ceci, c'est que, évidemment, le capitalisme a profondément changé. Comprenez-vous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger la façon... On est maintenant dans un capitalisme organisé. On est maintenant dans un capitalisme avec des politiques. La crise de 2008 n'a pas été la crise de 29 pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il y a des gens très compétents d'ailleurs qui n'étaient pas les déréglementeurs, si je peux dire, qui sont intervenus avec une coopération internationale. Sinon, c'était l'écroulement. Donc Marx, il avait raison et tort à la fois, évidemment, puisque le capitalisme n'a pas cessé de se transformer. Et j'espère qu'on y reviendra.
Brice Couturier, Alain Minc, qui n'est pas le plus marxiste des penseurs contemporains, dit ceci à propos justement de la théorie économique de Karl Marx, et en tout cas de son analyse. Il dit c'est le théoricien le plus aigu du capitalisme. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? C'est-à-dire, vous considérez que le capitalisme a trop changé pour que le diagnostic de Marx reste pertinent aujourd'hui?
Et puis n'oublions pas que Marx faisait deux prophéties qui se sont réalisées toutes les deux absolument fausses. C'était la paupérisation absolue du prolétariat. Au contraire, on a vu une moyenne bourgeoisisation, en tous les cas pendant plusieurs dizaines d'années, dans nos sociétés. Et il faisait aussi la prophétie d'une concentration de plus en plus folle du capital entre très peu de mains. Or, on voit bien qu'avec les phénomènes boursiers, etc., c'est pas le cas. Mais je voudrais revenir sur
Il y a quand même une aggravation des inégalités au niveau mondial.
On va y revenir tout de suite, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je vous ferai juste remarquer que dans les régimes communistes, ces inégalités étaient beaucoup plus fortes que dans les nôtres. Mais c'est un autre aspect de la question. Mais simplement, sur les crises, crises, les fameuses crises et celles de 2008 en particulier, Marx avait tendance à voir dans les crises des symptômes de ce qu'il appelait la maladie mortelle, la maladie fatale du capitalisme, des répétitions de l'inéluctable catastrophe finale qui allait emporter le système. Et c'est une erreur. Alors, on voit bien que les marxistes, à chaque crise économique, nous disent « ça y est, c'est la crise finale ». En 2008, beaucoup de gens l'ont dit. Je m'en souviens, j'ai fait quelques émissions là-dessus, c'était très frappant. Beaucoup de gens nous disaient « voilà, la crise finale du capitalisme est arrivée, il va s'abolir lui-même, ses contradictions ».
Il y a toujours des optimistes, hein. pas tout le monde.
Ça fait 170 ans qu'on nous la promet, puisque le manifeste du Parti communiste date de 1848, donc ça fait 170 ans qu'on nous promet la crise finale, celle qu'on attend avec tant d'impatience. Non, le capitalisme, il vit effectivement de ses crises, il vit de ses innovations, et se porte très bien à chaque crise nouvelle, comme vous venez de le dire d'ailleurs, des nouvelles formules de régulation sont inventées qui permettent effectivement de relancer la machine.
Ce sont des crises qui finalement peut-être le renforcent davantage qu'elles ne l'affaiblissent.
Mais bien sûr, parce que si vous voulez, il y a un côté millénariste dans la philosophie de Karl Marx. Il y a l'idée que un jour il y aura cette catastrophe finale qui mettra fin enfin aux contradictions de classe et qui abolira l'État et qui fera que nous rentrerons dans une société d'abondance dans laquelle les phénomènes de redistribution se poseront même plus. Bah, c'est manifestement ce type de millénarisme ressortait de philosophie politique du 19e siècle qui sont aujourd'hui totalement dépassés.
Anastasia Colosimo.
Alors je serais assez d'accord pour dire qu'elles sont totalement dépassées. Je pense que le Marx philosophe, en tout cas, repose maintenant un peu avec tous les grands auteurs progressistes qui ont promis aussi le fait que le progrès technique allait amener le progrès moral ou qui croyaient en tout cas dans le fait que c'était possible. Je crois qu'on ne peut pas vraiment de ce point de vue-là lire Marx sans Hegel et sans comprendre cette marche de l'histoire et ce progrès qui doit advenir et qui, nous, on l'a vu au XXe siècle, n'est non seulement pas advenu mais en plus a engendré les pires horreurs de l'histoire, mais en revanche, je serais pas aussi optimiste peut-être que Brice Couturier sur le capitalisme, c'est-à-dire que je pense effectivement que le capitalisme reste beaucoup plus soutenable et il l'a prouvé pour moi que le communisme. Il faudrait d'ailleurs peut-être discuter sur la solidarité qu'il y a entre les régimes communistes et le marxisme. On peut très clairement dire que, par exemple, en URSS, il y avait un cours de marxisme-léninisme et que donc le marxisme était enseigné comme une matière fondamentale. On peut ensuite, évidemment, obligatoire. On peut ensuite, évidemment, discuter des milliers d'interprétations et des mauvaises interprétations. Bon, ensuite, on est toujours un peu responsable aussi de la manière dont on est interprété. Ça, j'en suis convaincue. Mais là où je serais un peu moins optimiste que Brice Couturier peut-être sur le capitalisme, c'est que moi je pense que quand même il y a dans les analyses de Marx sur le capitalisme des choses très justes. C'est plutôt le volontarisme qui est un peu malaisant, mais dans les analyses des choses très justes, et il est évident que il y a quand même aussi on l'a vu, des gagnants et des perdants de la mondialisation. Il y a un accroissement des inégalités. Il y a un certain nombre de choses qui font aussi, d'ailleurs, que souvent la dissidence se joue du côté du marxisme, ce qui, à mon sens, est une erreur. Déjà, en termes de philosophie politique, on sait, et d'économie politique, on peut être antilibéral sans être forcément marxiste.
Et on peut être libéral et trouver un intérêt aussi,
d'ailleurs,
dans l'intérêt marxiste.
Hein. Évidemment.
Gérard Duménil.
Bon, c'est-à-dire, je crois qu'il faut quand même clarifier quelque chose. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de Marx et d'un intérêt de Marx en tant qu'économiste, d'un intérêt de Marx en tant que philosophe, parce que moi j'étudie aussi la philosophie, j'étudie l'histoire, hein, qui pour moi sont des aspects extrêmement importants. Mais il faut quand même dire une chose, il ne s'agit pas de se réapproprier le Marx de 48 et de dire « c'est formidable, je crois à tout ». Bien entendu, il y a aussi des choses qui sont complètement fausses. Par exemple, la théorie de la paupérisation qui n'existe pas du tout chez Marx. Bon, mais enfin, ça, c'est pas grave. C'est pas le problème. Le problème fondamental, c'est que si on veut en revenir véritablement au marxisme ou tirer quelque chose de Marx, comme des jeunes le font aux États-Unis, puisque c'était un thème de l'émission, il faut accepter une chose, c'est de reprendre Marx à la base, dans ses principes fondamentaux. Il faut le développer. Il faut arrêter de projeter Marx a inventé l'URSS. Parce que d'abord, c'est complètement faux. Si on étudie un petit peu Marx et si on connaît sa vie et si on voit Marx âgé, etc., c'est un penseur beaucoup plus riche que ça. Alors arrêtons de balancer l'URSS sur la personne de Marx. Si on avait plus de temps, on discuterait de la continuité, hein, jusqu'à la création du Parti social-démocrate en Allemagne, puis ensuite Lénine, etc. Mais ce serait un débat qui serait extrêmement long. Bon, il faut aborder Marx avec l'idée que nous avons à critiquer ce système, qui est en train de se métamorphoser profondément, qui est en train d'évaluer. Alors, évidemment, la situation en France, c'est pas, je veux faire l'éloge de la situation en France, mais si on considère les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont quand même les deux pays en avant, nous avons cette explosion extraordinaire des inégalités. et qui est une explosion des inégalités qu'on ne comprend pas très souvent. Parce que effectivement, c'est une explosion des revenus du capital, au sens des dividendes, des intérêts, de toutes les autres formes de profit qu'on peut faire avec du capital. Mais surtout, il faut bien comprendre une chose, l'explosion des inégalités, c'est pas le revenu du capital, c'est pas la richesse, c'est pas ça l'explosion des inégalités. L'explosion des inégalités, c'est les salaires. Et ça, il suffit de lire toutes les études qui sont publiées actuellement. Nous avons actuellement au Royaume-Uni et aux États-Unis une explosion extraordinaire des hauts salaires qui produit des inégalités sociales. Nous avons une espèce de cohésion qui s'établit au sommet entre les propriétaires capitalistes qui existent encore et une nouvelle classe qui sont véritablement les grands managers, les grands gestionnaires de ce système. Eh bien, les jeunes aux États-Unis qui voient comment évolue leur société avec stagnation des pouvoirs d'achat des plus pauvres, avec détérioration de la situation sociale, eh bien, ils commencent à réfléchir et à se dire « il faut faire quelque chose ». Et ils commencent à penser Marx, mais pas pour dire « Marx ». Théoricien, surtout économiste, de l'URSS.
Alors c'est justement ce que raconte cet article du Monde auquel je faisais référence. Karl Marx fait son comeback aux États-Unis, même si vous nous avez dit déjà dans une première intervention Anastasia Kolosimou que c'était quelque chose qui s'était installé dans la durée, avec notamment, alors, ce qui est noté dans l'article, le cas de l'Organisation démocratique socialiste of America qui a eu ses effectifs multipliés par 4 en 2 ans. Alors, multiplié par 4 en 2 ans, ça veut dire 32 000 adhérents aujourd'hui. À l'échelle des États-Unis, c'est pas non plus
ça reste quand même assez marginal.
Même si c'est vrai que ça peut toujours surprendre au pays qui a été le pays du macartisme. En tout cas, cette question des inégalités, ça peut être un moteur pour expliquer cette intérêt aujourd'hui d'une partie de la jeunesse américaine, et notamment universitaire, pour Marx.
Je pense que la part universitaire, c'est un peu différent parce que c'est surtout le Marx philosophe qui intéresse l'université. En revanche, il est évident qu'il y a une explosion. Je pense qu'on se rend assez peu compte en France de la situation réelle des États-Unis, et je pense qu'on est très gâté en France aussi parce que on est quand même entouré par un service public qui est quand même extrêmement présent, un État qui est très 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 présent. Être pauvre aux États-Unis, c'est vraiment une chose terrifiante. Et les inégalités aux États-Unis sont vraiment exacerbées, et elles sont surtout très visibles. Je pense qu'on peut s'en rendre très facilement compte en faisant n'importe quel voyage aux États-Unis. Il est évident que la crise de 2008, surtout pour cette génération-là, parce que cet article, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que ce sont des jeunes qui sont arrivés. Et il est évident que pour ceux qui ont grandi, moi je vais partir un peu aussi de cette génération, nous on a grandi dans une génération de chômage, d'angoisse de la précarité, etc. Il est évident qu'ils ne peuvent rêver qu'à un autre modèle, surtout quand les élites qui sont censées être plutôt de gauche, c'est-à-dire les démocrates, on a l'impression qu'ils ont complètement trahi cette question justement sociale, qu'ils ont complètement trahi cette question des inégalités, ou plutôt qu'ils ne s'occupent plus de la question des inégalités.
Parce qu'il se traduit par des mouvements comme Occupy Wall Street, par la percée de Bernie Sanders lors des primaires
bien
des
démocrates. Bien sûr, mais même l'élection de Donald Trump, ça s'explique par ça, parce que Donald Trump, c'est aussi c'est pas du tout un marxiste, mais c'est un antilibéral, c'est un protectionniste, enfin un antilibéral sur certains points en tout cas, et surtout, il est justement tout ce que, en tout cas, ce qui ne représente pas cette élite américaine, qui a trahi.
Brice Couturier.
Mais c'est vrai aussi en Europe, par ailleurs, ce mouvement-là.
Et en France, notamment.
Je vous ai apporté les chiffres sur l'inégalité, parce que quand on parle d'inégalité et de son explosion, il faut savoir de quoi on parle précisément. Or, les inégalités sont mesurées de manière très scientifique par les économistes à travers ce qu'on appelle le coefficient de Gini. Alors, le coefficient de Gini, c'est très simple. 0, ça veut dire égalité totale des revenus, tout le monde gagne exactement la même chose. 1, ça veut dire inégalité complète, c'est-à-dire une personne empoche tout et les autres n'ont rien. Entre les deux, il y a les coefficients de Gini. Alors, voyons les chiffres. Le pays le plus égalitaire de la planète, nous dit-on, c'est la Suède. Ils sont à 0,28 exactement.
C'est toujours
les États-Unis, les États-Unis sont à 0,39. Donc effectivement, on voit bien que c'est un pays inégalitaire. Le pays le plus inégalitaire des pays développés aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud avec 0,62. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la France ne bouge pas. Nous sommes passés de 0,28 en 99 à 0,29 l'année dernière. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on dit souvent dans les médias, il n'y a pas d'explosion des inégalités en France. Au contraire, il y a une forte, grâce à la redistribution sociale, 33% du PIB tout de même, il y a une régularité très claire des inégalités en France.
Mais est-ce que ça pourrait expliquer une moindre sensibilité peut-être à Marx en France qu'aux États-Unis,
Maurice Couturier ? Mais non, parce que je vais vous donner le contre-exemple absolu. Parce que les inégalités, c'est très intéressant, mais pourquoi faudrait-il les combattre à tout prix ? Regardez ce qui se passe en Chine. En Chine, nous avions une égalité extrêmement forte en 1980, à l'époque de la fin du maoïsme, avec un coefficient de Gini de 0,16. Aujourd'hui, la Chine est un des pays les plus inégalitaires de la planète recettes avec 0,55. Certes, d'accord, vous me direz, c'est très mal qu'il y ait cette inégalité, mais la réalité qui est derrière, c'est que 800 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Est-ce qu'il fallait absolument garder cette égalité dans la misère, qui était celle du régime maoïste, ou est-ce qu'il n'est pas préférable que 800 millions de personnes soient sorties de la famine et soient rentrées dans les classes moyennes, pendant que certes, en même temps, les inégalités ont cru. Et ça n'a rien à voir avec le marxisme.
La Chine, c'est un pays d'ailleurs intéressant pour parler de l'actualité de Marx.
Quand même de contester votre façon d'approcher l'inégalité à travers le coefficient de Gini, qui est extrêmement simplificateur. C'est pas de ça dont il est question aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça se passe.
J'aime passer sur des chiffres et des faits et pas sur des théories.
Oui, mais écoutez, si vous voulez, je vous sors mes livres de mon sac. Ils sont publiés par les presses universitaires de Harvard aux États-Unis avec véritablement toutes les données. Alors ne prétendez pas qu'il n'y a que vous qui connaissez les données. Nous travaillons constamment sur des chiffres.
Donnez-moi vos chiffres.
Eh bien, si vous voulez, je vous dédicacerai un ouvrage tout à l'heure. Et comme ça, vous pourrez le regarder. Bon, donc, ici, en ce qui se produit en matière d'inégalité dans un pays comme les États-Unis, c'est pas la grande masse de la population, et c'est ça que vous mesurez avec le coefficient de Gini. La montée des inégalités, c'est quelque chose qui se passe vraiment au sommet. C'est quelque chose qui se passe dans le 3-4%. Il y a des quantités d'études extrêmement sophistiquées par les gens qu'on appelle les économistes physiciens, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui ne sont pas forcément très connus. La montée des inégalités, c'est la constitution d'un groupe social qui correspond à peu près au 3-4% au sommet. Ça n'est pas bien mesuré du tout par Gini, dont les revenus ont complètement explosé, véritablement. Et là, si vous voulez, je vous montrerai les figures et je vous montrerai le bouquin, et ce sont les données absolument officielles et indiscutables. Bon, donc, dire, si vous voulez, que... Alors, c'est toujours le même argument, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut mieux un pays où tout le monde est égal et pauvre, mais un pays où il y a des gens extrêmement riches ? Bon, je vous répondrai, le problème n'est pas là, monsieur. Le problème n'est pas là du tout. Le problème, c'est que moi, je m'en fous qu'il y ait des milliardaires. C'est pas le problème. Hein. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ces classes-là supérieures qui sont en train de multiplier par je ne sais combien leurs richesses ne doivent pas déterminer le devenir de la société, ne doivent pas gouverner le monde. C'est ça, le fond du problème. Vous voyez, c'est pas le problème, moi, qu'il y ait Madame Bettencourt, qu'il y ait... Ça m'est complètement égal, si vous voulez. C'est pas ça. Le problème, c'est le système dans lequel nous sommes, avec ses retombées politiques, etc. Et c'est là que ça devient grave. La Chine est un pays que je connais bien. J'ai étudié le chinois moi-même, j'y ai enseigné, etc. Je sais un petit peu ce qui se passe en Chine. Bon, effectivement...
Et quelle place a le marxisme aujourd'hui en Chine,
C'est-à-dire que vous avez la schizophrénie totale. Hein, c'est-à-dire que moi, je fais des cours...
Bien dans le micro, sinon on vous entend pas.
Dans des départements de philosophie, pour parler clairement, hein. Eh bien, je veux dire, actuellement, les étudiants doivent subir des cours de marxisme. Et je dis très clairement, doivent subir des cours de marxisme parce qu'ils supportent pas. Hein, parce qu'ils voient pas ce qu'ils vont en faire, c'est pas ça qui va leur apporter. Et c'est un marxiste complètement stéréotypé. Donc le parti communiste qui se présente lui-même comme le parti du savoir, celui qui guide le pays, quand vous voyez la pensée Xi Jinping maintenant, qui est inscrite dans la Constitution, c'est à se taper le derrière par terre pour être grossier. Bon, mais il faut bien comprendre que ça c'est la schizophrénie.
Ils vont pas vous réinviter, faites attention.
Mais bien sûr, d'ailleurs j'y mets plus les pieds, voyez-vous, hein. J'ai décidé de ne plus y mettre les pieds. Pourquoi ? Bah parce que je me suis fait piéger pendant pas mal de temps. Je me suis fait piéger parce que, effectivement,
c'est un truc de marxiste,
au début, je ne comprenais pas bien. Hein. J'avais du mal à comprendre. Je savais bien qu'ils construisaient le capitalisme. Mais c'est pire que ça. Bon. Alors donc, si vous voulez, il ne s'agit pas du tout. Il faut juger ni le marxisme à l'aune de la Chine, ni à l'aune, évidemment, de l'URSS, etc. Ce n'est pas ça du tout. Marx est venu
À l'aune de quoi il faut le juger ?
Il faut le juger à l'aune du projet de Marx. Marx est arrivé à une certaine époque où on n'a pas le temps de discuter de ça en détail, où apparaissaient de nouvelles contradictions de classe, où des couches intermédiaires, voilà. Mais il faudrait passer partout par Saint-Simon, il faudrait reprendre toute l'histoire.
Mais il y a une anthropologie aussi, il y a une philosophie politique.
Bah oui.
Et vous dites il y a eu des mises en œuvre. Vous ne pouvez pas dire que rien, aucune des personnes... C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on me dise il y a des bonnes, des mauvaises interprétations. Il y en a pour tous les auteurs. Vous savez, des schmittiens, il y a des schmittiens d'extrême droite et des schmittiens d'extrême gauche. Donc moi, ça me va. Mais ensuite, quand on me dit, à chaque fois que quelqu'un essaye de faire du marxisme, qu'on me dit, non, mais ce n'est pas exactement Marx, ma question est alors que font tous ces gens ? Enfin, comment vous expliquer alors que tout le monde, le monde entier, a mal lu Marx ?
C'est parce que le problème ne se pose pas comme ça. Le problème, c'est pas de gâtifier, surtout à mon âge, sur l'interprétation de Marx, vous comprenez ? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de reconstruire quelque chose. Hein, et de reconstruire, et là, je pense que Marx est absolument indispensable par une certaine vision qu'il avait du devenir social. Il nous apporte des principes fondamentaux. Bon, ça a dévié pour des raisons historico-humaines, politico, etc. On pourrait en parler pendant des heures, ce serait passionnant. Mais c'est ça qui est en jeu.
Alors, c'est quoi ces principes ?
Ces principes, eh bien, chez Marx, il y a une théorie de l'histoire, et vous la connaissez très bien. Il y a une théorie de succession de périodes, qu'il appelait des modes de production. Il y a une théorie de structure de classe dans des relations, justement, à ces rapports de production. Il y a une théorie de l'État, etc. Tout ça, il l'a conçu, évidemment, avec des limites par rapport à son temps, mais c'est absolument remarquable. Il manque des quantités de choses. Marx n'a pas vu la moitié de l'histoire des sociétés, mais ce qu'il a vu, c'est gigantesque.
Mais là, vous parlez de la partie analytique, du coup. Vous parlez de la partie descriptive.
Mais très bien.
Vous ne parlez pas du projet.
Mais le projet...
Le projet, c'est la dictature du prolétariat. On peut en parler de ça, par exemple.
La dictature du prolétariat, c'est une étape. Marx pensait qu'il y avait dans le devenir du capitalisme deux choses. Une première chose qui était que le capitalisme accouche historiquement de quelque chose qui est le progrès de ce qu'il appelait les capacités de production. Je ne veux pas sortir le vieux vocabulaire de mes années 60 quand j'étais étudiant. Marx avait ça d'un côté, c'est-à-dire qu'il avait cette idée de ce progrès. Donc le capitalisme produisait le socialisme pour lui. Qu'est-ce que c'était ? Une société organisée, ce que notre société devient d'ailleurs, mais débarrassée, émancipée, dans laquelle les populations étaient émancipées. Voilà. Et c'est la combinaison de tout ça qu'il faut reprendre. Le problème par rapport au marxisme, c'est de le refonder. Le problème, ça n'est pas de le répéter. Et si on parle plus en détail des jeunes Américains, on pourra voir exactement ce que ça veut dire. Et c'est donc il faut arrêter de gatifier, comme je le disais, sur tout le monde interprète mal Marx. C'est pas le problème. Le problème, c'est de prendre Marx et de voir ce qui est indispensable pour nous pour penser un avenir meilleur pour l'humanité. C'est ça, pour moi, le problème, en tous les cas.
Alors, je suis de retour. Merci, Anastasia Kolosimo, de m'avoir remplacé en quelques instants pour interviewer Gérard Duménil. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien le vendredi. Ça me repose aussi. Brice Couturier, qu'est-ce que vous sauvez chez Marx, vous, aujourd'hui?
La théorie, la philosophie de l'histoire, c'est quelque chose de très démodé aujourd'hui, la philosophie de l'histoire, et moi j'aime bien ça. J'aime bien qu'on me raconte l'histoire en me disant qu'elle a un sens, que des modes de production engendrent des types de sociétés différentes. Ça me satisfait, et je pense que ça reste valable. Et c'est à mon avis le grand apport de Marx, c'est qu'il vous montre effectivement qu'aux innovations techniques, aux modifications dans les modes de production, c'est-à-dire dans la façon dont on produit, ça a des effets immédiats sur l'état de la société, sur les idées. Idéologie également, et non pas l'inverse. Si vous voulez, le matérialisme de Marx me semble extrêmement intelligent. On a tendance aujourd'hui à avoir inversé. On a une vision très idéaliste des choses. On pense que c'est les idées qui mènent le monde. Je pense que Marx avait raison. C'est plutôt les modes de production. C'est plutôt les innovations technologiques. Regardez comme l'informatique a joué le rôle. Alors, je vais revenir là, je vais être un peu provocateur, mais il me semble que c'est grâce à l'informatique que le capitalisme a vaincu le communisme. Parce que effectivement, l'Union soviétique a été battue parce qu'elle était incapable de s'adapter à cette révolution technologique-là. Quelque part, Marx explique, on peut expliquer par Marx l'échec des régimes communistes. Et juste pour revenir sur la responsabilité de Marx dans le communisme que vous niez, monsieur Duménil, je voudrais juste dire une chose. Les défauts des sociétés comme les nôtres sont systématiquement rapportés à leur soi-disant libéralisme. Si c'est pas la faute à Hayek, c'est la faute à Adam Smith. Mais bizarrement, les vices fonciers qui étaient ceux du communisme ne sont jamais rapportés à Karl Marx lui-même, alors même que, comme on vient de dire, c'était enseigné par tout le monde et que c'était l'idéologie officielle de ces États, alors que le libéralisme n'est certainement pas l'idéologie officielle des nôtres. Donc je ne vois pas pourquoi il y a ce double standard moral. D'un côté, on accuse le libéralisme de tous les défauts de nos sociétés, qui ont beaucoup de défauts, effectivement, y compris celui des inégalités, alors qu'on refuse d'imputer à Marx l'échec de régime qui se réclamait expressément de lui.
D'autant qu'on peut aussi peut-être faire une forme de continuité, imaginer une forme de continuité entre des penseurs économistes libéraux et Karl Marx. Par exemple, je sais pas moi, Ricardo, sans Ricardo, il y a peut-être pas l'analyse et la théorie de Marx, Gérard Duménil.
La valeur travail, c'est sûr.
La valeur travail, oui.
Non, mais plus que ça, parce que Ricardo aussi avait une vision de rapport de classe, etc. Enfin, mais si c'était pas du tout formulé comme ça, c'est certain que Marx a beaucoup appris là-dedans, bon, sur les problèmes de l'agriculture. Enfin, ce sont des choses bien connues, on peut pas rentrer là-dedans. Non, mais il ne s'agit pas du tout de dire que chez Marx, il y avait aucun risque autoritaire. Il ne s'agit pas du tout de dire ça, parce que effectivement, Marx a été critiqué de son vivant dans la Première Internationale par les anarchistes, par Bakounine, etc., que c'était le Marx... Oui, mais enfin, c'est pas celui que j'irai chercher, voyez-vous. Moi, j'irai plutôt chercher ailleurs. Bon, et bon, parce qu'il y a quand même un côté très très rétrograde chez Proudhon. Mais en tous les cas, chez Marx,
il avait vu la tendance autoritaire de Marx, beaucoup moins
que les autres anarchistes. Je suis pas du tout anarchiste, hein, mais je dois le dire tout de suite, mais beaucoup moins que les
mais
autres.
Mais c'est pas seulement la tendance autoritaire, c'est aussi l'anthropologie, quoi.
Oui, mais si vous voulez, bon, Marx avait cette idée que pour émanciper l'humanité, il fallait l'organiser. Et il n'y a pas de doute que là, il y avait quelque chose d'assez terrible. Parce que, l'émanciper des structures de classe, des dominations, d'apporter...
Et l'aliénation.
Oui, mais bien entendu, de ce qu'il appelait l'aliénation. Hein, voyez-vous. Bon, donc là, évidemment, il y a un risque énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut coupler l'émancipation et puis l'organisation, bon, donc d'une certaine façon, ça préparait. Mais il faut bien comprendre que Marx est quelqu'un de beaucoup plus riche que ça. Vous connaissez l'histoire à la fin de sa vie, quand les populistes lui ont dit « Est-ce qu'on peut transformer le MIR et puis en faire l'origine en Russie, hein, en faire l'origine d'un nouveau système, etc. » Marx, il s'est mis à apprendre le russe, etc. Et puis il a dit, eh bien peut-être que oui, comprenez-vous, c'est quand même très très important. Marx est un esprit qui était vivant par rapport à son temps, voyez-vous. Alors évidemment, on peut être d'accord sur le fait qu'il y a, quand on veut coupler émancipation et organisation, il y a un risque évident, hein, il n'y a pas de doute. Bon, mais d'un autre côté, Marx n'est pas cet homme-là. Et il a montré dans son devenir, dans son activité, dans ses réactions, quand il était confronté aux réalités, qu'il était capable de bien autre chose que ça. Hein, mais je répète, on n'est pas là, moi je ne suis pas là en tous les cas, bien que je le fasse pour faire l'éloge de Marx. Je suis là parce que je pense que ce qui est important...
Vous faites bien de le préciser quand
oui,
même.
Oui, je le précise, parce que je pense que ça n'est pas le principal. Le principe, c'est d'utiliser Marx pour reconstruire quelque chose.
En fait, moi mon problème, je vais vous dire, je vous pose des questions, parce que moi mon problème c'est qu'on l'a quand même drôlement utilisé.
Ah, ça il a été
et qu'à
utilisé,
chaque fois qu'on l'a utilisé, ça s'est quand même pas très très bien terminé.
Ah bah c'était
quoi.
Pas beau, oui.
Non d'accord. Mais donc voilà, donc moi quand vous me dites il faut le réutiliser, j'ai envie de dire, bah, peut-être qu'à un moment, quand on a beaucoup utilisé quelque chose et que ça s'est pas très bien passé, on peut être arrêté de l'utiliser.
Oui, c'est votre vision, mais c'est pas la mienne.
Alors on l'a utilisé à travers son vocabulaire, à travers sa pensée bien sûr, à travers aussi certaines formules, dont certaines très connues. La religion, c'est l'opium du peuple. Anastasia Colosimo, vous vouliez évoquer aussi cette dimension, c'est-à-dire ce rapport à la religion, à la lumière de ce regain d'intérêt pour Marx.
Alors en fait, il y a deux choses.
C'était bien vu, excusez-moi, juste un mot. Quand même, la religion, c'est l'opium du peuple, c'était très bien vu.
Sauf
oui,
que
c'est discutable, c'est discutable. C'est discutable. C'est bien de pas asséner aussi, vous voyez, de façon très marxiste les choses comme ça. Ouais. Ça permet du coup de se dire que le marxisme n'est pas un autoritarisme, par exemple. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a une lecture qui est très intéressante et que font les philosophes de la théologie politique, et qui explique que chez Marx, en fait, il y a beaucoup Marx qui veut complètement liquider l'héritage religieux. Il y a en fait beaucoup de transformations et de sécularisation même du religieux, toute sa théologie est une théologie en fait extrêmement empreinte de christianisme, que même l'idée du grand soir rappelle le salut, etc. Et qu'il y a en fait un Marx très chrétien, une formation très chrétienne dans sa philosophie même. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est que aujourd'hui, aux États-Unis, toute une génération de chercheurs marxistes qui étaient extrêmement anti-religieux et qui considéraient que effectivement la religion était imposée par les élites pour endormir le peuple, sont devenus des chercheurs qui se sont intéressés à la religion parce que ils ont un peu remplacé la lutte des classes par la lutte des religions et considèrent que la religion est devenue un moyen pour les peuples dominés de se réarmer par rapport aux élites dominantes et surtout, par exemple, aux pays musulmans de se réarmer contre l'Occident. Et ça, il y a toute une tendance aujourd'hui à l'université de Berkeley. Talal Assad, Sabah Mahmoud, qui sont des chercheurs donc qui réhabilitent la religion parce qu'en fait, moi c'est plutôt ça que je voulais interroger depuis le début, Monsieur Duménil, et c'est ça qui me dérange. Et quand je vous parlais d'anthropologie, c'est que la réduction d'absolument tous les rapports à des rapports de dominants et dominés, et vous êtes pas content, mais exprimez-vous.
On réduit pas toutes les oppositions.
Vous allez pas vous plaindre parce qu'il vous intéresse pas.
Il s'agit pas de faire cette utilisation impérialiste de la pensée de Marx. Il y a dans la société des quantités de domination qui sont pas des dominations de classe. C'est bien plus compliqué que ça.
La lecture contemporaine d'un tas de marxistes et par exemple de jeunes marxistes, c'est justement de reproduire cette question de la domination, pas seulement du tout aux classes, aussi aux races, aux religions. mais... au sexe, etc.
Moi, je ne porte pas tous les péchés du marxisme, puisqu'on non, parle non, de mais... religion. Vous voyez
mais vous faites bien, parce que bon, ça serait lourd à porter. Ça serait extrêmement lourd à porter.
Mais vous savez, tout est utilisé, véritablement.
Non, bien sûr, mais enfin, que cette
dire,
idée...
La théorie de Marx, ce n'est pas une théorie qui explique tout. Ce n'est pas une théorie qui explique toutes les oppositions.
Non, bien sûr, mais moi, je vous dis comment le Marx est réutilisé aujourd'hui. Et Marx, aujourd'hui, est réutilisé beaucoup, quand même, dans cette idée qu'il y a des dominants et des dominés.
Est-ce que c'est problématique, cette réutilisation-là?
En fait, le problème, c'est que cette... Bon, déjà, moi, je pense qu'il y a un problème au sein même du camp marxiste, ou plutôt au sein même du camp de la gauche, qui est que, justement, la gauche a remplacé un peu la lutte des classes par toutes ces autres luttes-là. Et que il y a un peu une déperdition de la question des pauvres, du peuple, de la paupérisation, au profit des minorités, etc. Et je pense que, de ce point de vue-là, d'ailleurs, beaucoup de gens se sentent trahis. Mais là, je laisse parler peut-être vous, qui êtes marxiste et qui peuvent... Vous pouvez peut-être mieux parler de...
Au Brice Couturier juste avant, mais qui n'a pas parlé depuis quelques minutes.
Ça m'arrive. Oui, effectivement, Marx disait que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. C'était pas une nouveauté, parce qu'en fait, il y avait Augustin Thierry et quelques autres philosophes historiens du 19e siècle qui l'avaient dit avant lui. Mais c'est une théorie très forte et qui emporte ma conviction, très honnêtement. Et la remplacer par toutes sortes de fronts secondaires, comme disaient les marxistes-léninistes de ma jeunesse dans les années 70, ça me paraît très dangereux pour la gauche. Et c'est, à mon avis, une des raisons pour lesquelles elle est en retrait et en reflux un peu partout à travers le monde. Mais je voudrais juste revenir aussi sur quelque chose qui a été dit juste avant. On parlait de religion. Il faudrait aussi parler de nation. Il me semble qu'un des grands défauts de Marx, c'est d'avoir prophétisé à tort le dépérissement de l'État. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas dépéri, et surtout pas dans les régimes communistes. Le dépérissement et l'effacement progressif de la nation, des nations sous l'effet de l'internationalisme prolétarien, et le dépérissement des religions. Il avait tort dans les trois cas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au 21e siècle, 170 ans après le manifeste du Parti communiste, les nations sont plus que jamais là, regardez la Russie, les religions sont plus que jamais là, regardez l'islam, et quant à l'État, au contraire, chaque crise du capitalisme renforce le besoin de régulation par les États.
Gérard Duménil.
Marx ne prophétisait pas les choses comme ça, et dans la vision de Marx, il y a évidemment une chronologie. Le dépérissement de l'État, vous savez bien que Marx, il voulait justement la dictature du prolétariat, c'est-à-dire un renforcement d'un État particulier, hein, de façon à éliminer les classes dominantes. Et ce serait Marx, dans un autre second temps, disons, était un anarchiste. Hein. Vous parliez tout à l'heure de Proudhon, mais c'est encore bien autre chose. Proudhon, il était contre l'unité italienne ou contre l'unité des pays européens parce qu'il pensait que ça allait renforcer les États. Jamais Marx n'est rentré dans ce genre de pensée. Marx savait très bien qu'il faudrait faire la révolution, qu'il faudrait un État fort de façon à transformer la société, et c'est là que vient son anarchisme dans un deuxième temps, et là on pourra atténuer les structures étatiques pour créer une société plus démocratique à la base. La pensée de Marx est quand même une pensée relativement complexe, hein. Il faut la dérouler jusqu'au bout.
Gérard Duménil, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que Marx, aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez d'ailleurs y répondre, est-ce que Marx est encore beaucoup lu aujourd'hui, et est-ce qu'il y a des pays, des zones géographiques où il l'est particulièrement?
Je voudrais dire que par rapport à ce que vous avez dit sur les États-Unis, parce que c'est un peu surprenant, vous avez parlé de philosophie. Hein, le marxisme survit plus en France chez les philosophes que chez les économistes. Hein, et aux États-Unis, effectivement, il y a les philosophes, mais il y a aussi les économistes. Moi, j'ai mes amis et j'ai enseigné pas mal quand même aux États-Unis dans certaines universités. Donc, il y a un certain marxisme qui survit également. Bon, il y a d'autres pays, vous voyez.
Nous, pas la Russie, pas la Pologne, pas la Tchécoslovaquie, pas la Tchéquie.
Oui, et bien évidemment, c'est tous ceux qui ont été historiquement traumatisés.
Et l'Amérique du Sud, par exemple, où il y a eu un certain nombre de révolutions
si vous voulez, moi, encore cette année, je voyage constamment au Mexique, je voyage constamment au Brésil, en Amérique latine, parce qu'effectivement, il y a encore un marxisme très vivant dans ces pays-là. Il ne faut pas s'imaginer qu'au plan mondial, hein. Bon, mais moi, je n'écris qu'en anglais. Hein, et on publie nos livres aux États-Unis. Pourquoi les presses universitaires de Harvard publient nos livres? On en est au troisième, et là c'est 600 pages.
Mais tant que ça reste à l'université, c'est pas du tout inquiétant.
Oui, hein.
Moi, je pense que c'est justement le moment où on commence à faire des projets qui est inquiétant. Mais tant que ça reste à l'université, moi, je pense que le Marx
au Venezuela, par exemple, c'est plus inquiétant.
Non, mais en plus, les analyses de Marx, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'elles sont exceptionnelles et qu'il faut continuer à lire Marx. La question, c'est toujours le même. La question, c'est toujours la même. C'est le projet.
Mais si vous voulez, on n'est pas aux États-Unis dans une situation où le le gouvernement ou les classes dominantes des États-Unis se sentiraient menacées par la montée du marxisme.
Non.
Ni par les 30 000 jeunes là, ni par ce qui se
32
passe. 32 000. Dans... Excusez-moi, j'arrondissais un peu. Ce qui se passe dans les universités, voyez-vous. Ils se sentent pas du tout menacés. S'ils se sentaient menacés, il
suffit
de connaître un petit peu l'histoire.
Mais l'université dépérit un peu à cause de ça aussi.
Une certaine université. Mais n'oubliez pas que les universités américaines sont privées. Ils sont trop contents de faire venir d'Amérique latine des étudiants avec des bourses qui viennent dans telles universités que je pourrais vous nommer parce que j'y ai enseigné, où vous avez des marxistes qui enseignent parce qu'ils sont trop contents, ces étudiants, de venir là. Il y a toute une dynamique qui est une dynamique complexe. Pour l'instant, non. Les classes dominantes des États-Unis se sentent pas menacées par cette remontée du marxisme. Si c'était le cas, la répression viendrait parce qu'ils sont très très forts.
Merci Gérard Duménil, merci Anastasia Colosimo et Brice Couturier pour cette discussion. Bon, on voit que 200 ans après la naissance de Marx, on peut encore avoir des discussions extrêmement vives à son sujet. Discussion que vous pourrez réécouter évidemment sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Leduo et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son ce soir Nadège Antonini, Stéphane Desmonts et Jean-Benoît Tétu.